France Inter, Interclasse.
C'est vrai qu'on a vécu un événement historique, il faut le dire, mais c'est pas du tout comme ça qu'on l'imagine souvent dans les livres d'histoire. On voit des jeunes qui se battent contre les choses, etc., qui essaient de faire quelque chose. Non, on n'a rien fait, et c'est ce qu'on nous demandait de faire d'ailleurs, on nous demandait de rester chez nous. On se sent très inutile quand même dans cette histoire.
France Inter, Interclasse, lycée René Auffray à Clichy-la-Garenne.
Clichy est une ville de 60 000 habitants, coincée entre Paris et Asnières. Pour Lina et Victoria, élèves du lycée René Auffray, son cœur battant, c'est la place des Martyrs.
C'est un bon endroit pour se retrouver, juste pour discuter, et c'est un bon endroit de rendez-vous.
Quand je viens, c'est pour me poser, pour manger un petit truc avec des amis. C'est un beau cadre, quoi.
Pour les deux jeunes filles, cette place est à l'image de la ville de Clichy, à mi-chemin entre deux quartiers, animée, bruyante et pleine de diversité.
C'est bien que ce soit une ville hybride, comme ça tout est mélangé.
En fait, il y a des personnes toutes les origines qui viennent ici, ça représente aussi Clichy. Clichy, il y a de tout, quoi.
Il s'agit également d'un des plus jolis endroits de la ville, aux yeux de Lina. À peine installée sur un muret, elle mitraille la place de photos avec son téléphone portable, son modèle favori, un des bâtiments haussmanniens qui borde la place quelques mètres plus loin.
Je trouve qu'il est super, enfin sur certains plans, il est hyper photogénique, contrairement à d'autres. J'ai pas l'impression d'être à Clichy quand je viens ici, justement. Ça ressemble pas à certains quartiers auxquels on pense quand on pense à Clichy. Si je voyais que cette photo, j'aurais l'impression d'être dans le 17e ou le 16e ou un beau quartier, quoi.
Un cadre avec de la verdure et une belle architecture qui contraste avec d'autres parties de Clichy qui peuvent parfois sembler en mutation et en chantier perpétuel aux adolescentes.
Beaucoup de bâtiments qui sont en train de se construire pour les entreprises. Puis il y a beaucoup plus de gens qui viennent à Clichy vu que on a quand même la gare, le métro, il y a beaucoup de gens qui viennent vivre là. Du coup, il y a beaucoup de bâtiments qui se construisent. Donc en fait, ça fait qu'il y a plein de trucs, etc. Donc c'est vrai qu'on se sent un peu compressé, mais je pense que quand tout sera fini, qu'il n'y en aura plus, ça fera bien et on se sentira moins compressé.
De son côté, Lina voit même une sorte de frontière qui séparerait deux parties de la ville.
En fait, Clichy s'est divisé en deux parties. Il y a la partie un peu plus aisée et la partie moins aisée. C'est deux mondes différents au sein de la même ville. Je pense justement au quartier à côté du lycée Newton, où il y a des bâtiments, on dirait, qui sont laissés à l'abandon.
Malgré ces disparités, les deux adolescentes restent très attachées à Clichy et comptent bien y passer encore plusieurs années.
C'était un reportage de Nina Droff, Interclasse, aujourd'hui avec le lycée René Auffray de Clichy-la-Garenne.
Un grand merci à son équipe pédagogique, emmenée par Véronique Mélin et Charlotte Amidani, au Clémy de Versailles et aux étudiants de l'Institut pratique du journalisme qui nous ont accompagnés toute la saison. Nicolas Mathias.
Alexandra Hakoun.
Alexandra, avec votre groupe, vous avez choisi de travailler sur un parasite dont je vous laisse très très lâchement prononcer le nom vous-même.
Oui, c'est le Locochloridium paradoxum, sujet choisi cette année par Cassandra, Sarah, Victoria, Mohamed, Lina, Dani et Soraya. On écoute et on en discute après.
Il était une fois dans une contrée inconnue, une créature aux yeux exorbités, un escargot.
Attends, c'est quoi ce truc? C'est pas un escargot?
Si, mais il est de type possédé, une sorte de zombie, quoi.
Hein?
Bah oui, le Locochloridium paradoxum, qui a été transporté dans l'estomac d'un oiseau.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Eh bien, pour le savoir, nous sommes allés au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris rencontrer le docteur Coralie Martin. Elle est la directrice du laboratoire de parasitologie. Alors docteur, zombie ou pas?
C'est vrai, je peux comprendre qu'on puisse penser à un zombie, mais c'est pas du tout ça en fait. C'est plus de la manipulation, alors pas mentale là, c'est la manipulation physique.
Un phénomène de manipulation qui date de quand docteur?
Il a été découvert en 1810 par un Allemand et il a été décrit proprement, c'est-à-dire il a été nommé par Carus en 1835, qui est aussi un Allemand. Il semble que ce qui a été fait en 1835 est pas mal. Ça tient, et depuis on a évolué sur les connaissances biologiques.
Et ce monstre, où le trouve-t-on?
Dans les forêts tempérées d'Europe et d'Amérique du Nord, parce que c'est là où on trouve les hôtes définitifs de ce parasite, les oiseaux. Il infeste une quinzaine d'espèces d'oiseaux connues à l'heure actuelle. Il y a des merles, il y a des pinsons, il y a des geais. C'est plutôt des petits oiseaux.
Mais le Locochloridium paradoxum, comment fait-il pour passer de l'oiseau à l'escargot?
C'est un parasite qui a un cycle complexe. Donc l'escargot, quand il se balade et qu'il mange ce qu'il y a dans le sol, il va prendre les œufs qui ont été pondus avec les fesses.
Les quoi?
Les fesses. Du caca, quoi.
Dans l'escargot, les œufs, ils vont se transformer, devenir ce qu'on appelle des myracidies, et puis ils vont encore se transformer et devenir ce qu'on appelle des sporocystes. Et ces sporocystes, ils bougent à l'intérieur de l'escargot, ils migrent, et ils vont aller vers les tentacules ce qu'on appelle les pédoncules oculaires de l'escargot, donc ce qu'il a sur la tête, et qui, où en haut il y a les yeux d'ailleurs. Et donc ils vont se positionner à l'intérieur. Le sporocyste est gros, donc il va faire gonfler ce pédoncule, et en plus il va changer de couleur, il va prendre ses couleurs flashy, là, rouge, vert, orange, et en gros c'est un gros warning qui se met en place de chaque côté ou d'un seul côté de la tête de l'escargot. Donc en fait, quand il est dans les antennes, il se transforme, il devient très visible et il ressemble à une chenille. Et donc les oiseaux qui volent, ils repèrent ça et en général, ils descendent en piqué, pensant qu'ils vont manger une chenille et ils vont manger l'escargot. Les sirènes de voiture, parce que je trouve que ça fait un peu penser à ça en fait, là, dans vu qu'ils se positionnent dans les antennes et que le but du jeu, c'est qu'ils soient visibles par l'oiseau, ça fait un peu penser aux sirènes, je sais pas, pompiers, police, ce qu'on veut, mais... Qui tournent en lumière, qui s'allument et s'éteignent.
C'est un peu une boîte de nuit aussi, alors.
Vous pouvez essayer avec la boule à facettes.
Ok, on a bien compris. Des signaux lumineux dans tous les sens. Mais biologiquement, il se passe quoi à l'intérieur ?
On voit les choses, on les décrit, mais on ne connaît pas la nature de l'interaction au sens mécanistique. C'est-à-dire, on ne sait pas quelles sont les molécules qui sont libérées par le parasite qui va aller à tel endroit, comment il reste dans cet endroit, comment il devient fluo comme ça, en fait, aussi. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur comment il change pour être vu. Et comme c'est des petits sujets, entre guillemets, c'est des niches. Il faudrait des gens et du temps là-dessus. Et puis, il faut aussi des outils pour pouvoir regarder, parce que quand on veut travailler sur des mécanismes, souvent, c'est plus facile de travailler sur de la souris ou de l'homme parce qu'on a des outils moléculaires, des anticorps. Chez l'escargot, il n'y en a pas trop. Sur le parasite, il n'y en a pas trop. Il faut tout créer, en fait. Et donc, ça prend du temps.
Des parasites comme celui-ci, qui prennent possession de leur hôte, il en existe en réalité une multitude dans la nature.
Les gros parasites peuvent avoir des ornementations super jolies à regarder et qui font un peu peur quand on les regarde en très gros.
Alors, si vous en croisez un...
Gardez votre calme!
Voilà pour ce reportage tourné au mois de mars au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Expliquez un petit peu aux auditeurs comment vous avez décidé de vous emparer de ce sujet. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Sarah ?
Pour ma part, en fait, j'avais trouvé sur YouTube, et le YouTuber, c'est quelqu'un qui parle de faits scientifiques en général, et j'étais tombée sur une de ses vidéos qui parlait du coronavirus généralement, mais il parlait également de différents types de parasites, et c'est comme ça que je l'ai trouvé et que j'ai proposé l'idée.
Moi, je me souviens que la première fois que vous m'avez montré la vidéo, en fait, j'ai cru que c'était une fake news. J'avais jamais vu ce truc-là, un escargot qui devient un zombie, en fait, hein, Lina.
Bah, c'est quelque chose de fou. Enfin, quand Sarah nous en a parlé, moi aussi, je pensais que c'était quelque chose de fou, que c'était pas naturel et que c'était sûrement quelqu'un qui avait écrit ça comme ça, quoi.
Et en fait, on a creusé un petit peu, on s'est aperçu que c'était vrai.
Oui, on a passé beaucoup de temps. Ouais.
Mohamed, il s'occupait quand on est allé tourner du micro. Hein. C'est voilà. Toi qui portais le micro.
Oui, je portais le micro.
Ça t'a plu ?
Oui, c'était bien, c'était intéressant de prendre des bruitages ou des bruits de la nature.
Et de toute cette expérience qu'on a vécue ensemble cette année, qu'est-ce que vous en gardez ?
J'ai bien aimé parce que j'ai découvert des choses que je connaissais pas. Je suis allée dans un laboratoire, j'étais jamais allée.
Et je regarde pas vraiment la télé, les infos en général, et je pense que je ne regarderai pas. Je préfère encore m'informer sur des différentes vidéos YouTube qui sont assez intéressantes, malgré ce qu'on peut dire sur le fait, oui, les vidéos YouTube, c'est vraiment intéressant. Non, il y a des sujets qui sont extrêmement intéressants. Hein, c'est juste que la plupart des jeunes, enfin de ma génération en tout cas, on regarde pas les bons contenus, en fait, c'est tout.
Mais est-ce que tu regardes un peu la source quand même de ce que tu consultes ?
Oui, je regarde la source quand il y a quelque chose qui est vraiment extrême. Je me dis, attends, il y a peut-être un problème, donc c'est pour ça.
Et les journaux, la presse écrite, jamais ? Même en ligne ?
Si, en ligne,
quelquefois.
Avec les journaux comme Le Monde, etc.
Ouais, Lina, tu lis Le Monde ?
Ça m'arrive, ouais, mais pas souvent. Enfin, j'ai réduit ma consommation... enfin, je sais pas si on peut dire consommation d'informations, mais...
Pourquoi ? Parce que c'était anxiogène cette année ou...
Oui, bah, cette année on parlait souvent des mêmes sujets et puis c'était pas très positif cette année.
Tout le monde veut le kit, yeah.
Attention où tu mets les pieds. Je suis arrivé, j'ai goumé le rap game. Je suis parti sans laisser les clés. Enfant illégitime de clé. Babi me disait t'es moche. Quand j'allais braquer les mecs avec mes négros armés et les mains dans les poches. Tes négros font genre les proches. J'ai plein de renois dans le schnor. On investit dans le sport. Réinvestit dans le store. Regarde tes gens snore. Regarde-moi aller mainstream. Le même âge, pas le même style. M'en bats les couilles de ton NES team. Impossible de stopper le boy. Ils veulent dompter le boy. Que maman a poussé le boy. Élevé au Kinimax. À côté des gens c'est des chicks. Donc ils pourront pas manger mes chips. Renoir ils vont se manger des chips. Pas de masque, pas de putain de pardon. J'arrive sur vous net. Lavez les mains et les pieds c'est la même. J'arrive sur vous net. Sortez pas de chez vous sinon c'est mort. J'arrive sur vous net. Je glisse dans la foule, direct dans les poumons. Et j'arrive sur vous net. Pas de masque, pas de putain de pardon. J'arrive sur vous net. Lavez les mains et les pieds c'est la même. J'arrive sur vous net. Sortez pas de chez vous sinon c'est mort. J'arrive sur vous net. Quelques billets chaque semaine, quelques morts chaque semaine. Renoir, baisse-toi quand tu capes le main. Sinon je shoot ton abdomen. Ta salope veut le tosma. J'roule avec Grossma. Yaskaza ou Nietzuchka. Vladimir Cauchemar. J'suis un de ces putains de variants. Donc j'suis là pour rester. Pas speed ton pied lesté. Tu transpires comme sous LST. Veillez pas si vous payez pas. Essayez pas, vous asseyez pas. J'les mets en réa comme une vieille dame. J'suis monsieur Andrea. Impossible de stopper le boy. Ils veulent dompter le boy. Que maman a poussé le boy. Élevé au Kinimax. À côté des gens c'est des chicks. Donc ils pourront pas manger mes chips. Renoir ils vont se manger des chips. Pas de masque, pas de putain de pardon. J'arrive sur vous net. Lavez les mains et les pieds c'est la même. J'arrive sur vous net. Sortez pas de chez vous sinon c'est mort. J'arrive sur vous net. Je glisse dans la foule, direct dans les poumons. Et j'arrive sur vous net. Pas de masque, pas de putain de pardon. J'arrive sur vous net. Lavez les mains et les pieds c'est la même. J'arrive sur vous net. Sortez pas de chez vous sinon c'est mort. J'arrive sur vous net.
C'était Blizzard, Vladimir Cauchemar et Benjamin Epps. Vous êtes toujours sur France Inter. Interclasse avec les élèves du lycée René Auffray de Clichy-la-Garenne.
Un deuxième sujet aujourd'hui, l'homophobie dans le sport. Un sujet réalisé avec Kendrick, Antoine, Stéphane, Alexis, Adam, le tout sous la supervision d'Antoine Lee, journaliste à France Inter. Alors déjà, je voulais vous demander pourquoi vous avez choisi ce sujet, comment il est arrivé sur la table.
On voulait parler du foot. On s'est dit qu'on allait mélanger l'homophobie et le foot.
On se disait que cette cause n'était pas assez médiatisée. On n'en parlait pas souvent dans les médias. Et donc, on a voulu ramener ça. On a voulu donner une visibilité à cette cause. Et comme on était tous de gros passionnés de foot, bah, on a voulu en parler.
Dans le football, que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain, les insultes homophobes fusent.
Un phénomène que l'on retrouve à tous les niveaux, amateurs ou professionnels.
Mauricio. Bonjour monsieur le paysan qui interrompt le match pour cause de chant à caractère homophobe.
PD, Tarlouse, Mauviette, voilà ce qu'on entend régulièrement dans le foot. Le ballon rond devrait pourtant nous réunir.
Comment expliquer ce comportement? Les conséquences peuvent-elles être graves? Quelles sont les solutions? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons contacté Johan Lemaire.
Johan Lemaire est le premier joueur de foot français à avoir fait son coming out.
C'est-à-dire à avoir révélé son homosexualité.
Au moment de le faire, il est rempli d'espoir.
Quand j'en ai parlé en 2004 de mon homosexualité dans le vestiaire, je n'avais pas du tout peur. J'espérais du football pour accepter mon homosexualité, parce que je ne me l'acceptais pas moi-même. Je me dégoûtais, je voulais être hétéro.
Pour moi, Malik, la surprise est grande. Quand Johan Lemaire dit qu'il aurait préféré être hétérosexuel, je ne comprends pas. Et je lui fais part de mon étonnement.
Si vous voulez être hétéro, soyez hétéro.
Malik, honnêtement, est-ce que tu penses qu'on choisit si on est hétéro ou homo?
Bah, en soi, bah oui, un peu quand même.
Est-ce que tu contrôles tes sentiments? Quand tu tombes amoureux d'une fille et que, voilà, tu as une petite relation avec elle, vous sortez ensemble, puis un jour elle dit bah moi j'arrête parce que tu me plais plus et que toi t'es en cours amoureux, bah, y a pas un bouton qui dit bah j'arrête mes sentiments, j'arrête d'être amoureux et puis je passe à autre chose. Des fois tu souffres, non?
Bah, en soi je fais tout pour qu'elle me dégoûte et c'est bon.
Ouais, mais quand t'es amoureux, hein.
Ça oui.
Eh ben, l'homosexualité, c'est ça. Mmh. Tu sais, quand on parle d'homosexualité, souvent on parle du sexe, parce qu'il y a homosexualité dedans. Alors ça fait un peu peur, ça dégoûte, on s'imagine deux mecs ensemble. Mais moi, je vais te parler de sentiments, d'amour, de passion. Eh bien, les sentiments, ça se contrôle pas, Malik. Et on n'a qu'une vie, alors il faut en profiter, puis vivre.
Ce jour du club de Chouz, dans les Ardennes, décide de vivre librement et de dire publiquement qu'il aime un homme.
Certain qu'il sera compris et soutenu, il va vite déchanter.
J'espère que mes potes du foot m'aident à m'accepter. J'étais naïf. Le club ne faisait rien à laisser pourrir la situation. L'entraîneur a eu un manque de courage terrible. Eh bien, jusqu'au jour où des joueurs ont voulu montrer leur virilisme, on dit « PD, on va le dégager ».
Yoann Lemaire décide de réagir. Il fonde l'association Foot Ensemble pour lutter contre l'homophobie et ses ravages dans le milieu du ballon rond.
Son association propose de nombreux outils pour lutter contre l'homophobie. Des livrets de sensibilisation destinés aux joueurs et aux entraîneurs. Aussi des interventions dans les écoles et les centres de formation. Et même un jeu en ligne.
Le coach Christian a l'air furieux et il rentre dans les vestiaires. Ça va chauffer.
Vous avez été mauvais, nul. Allez vous doucher, bande de tarlouses.
Le coach a encore pété les plombs. Ça devient relou son discours. Tu trouves pas ?
Le footballeur militant obtient des soutiens de poids dans sa lutte contre l'homophobie. Dans un documentaire qu'il réalise en 2009, Yoann Lemaire décroche une interview exclusive de la star des Bleus, Antoine Griezmann.
Chaque personne a ses goûts, que ça soit dans la vie amoureuse, dans les choses qu'on aime faire. Et voilà, essayer d'aider la personne qui le dit et de pas critiquer ni insulter.
Les lignes semblent bouger. Preuve que les mentalités semblent évoluer dans le milieu du ballon rond.
À quand le coming out d'une star mondiale du foot ?
Alors pourquoi vous terminez le reportage par cette question ?
Parce que...
Alexis ?
Imaginons le cas d'Mbappé ou Neymar. Il va avoir des enjeux, sponsors et son image. Et si une star de haut niveau comme lui fait son coming out, enfin, je pense pas qu'il le soit, mais s'il le fait, ça inciterait peut-être d'autres joueurs moins doués, entre guillemets, à le faire aussi.
Et l'homosexualité au lycée, elle est perçue comment ?
Je pense que c'est tabou parce que personne n'en parle. C'est un sujet qui gêne, entre guillemets, même si ça devrait pas, mais c'est la réalité. C'est un sujet qui dérange.
Qui continue à déranger ?
Oui. Pour homosexuels, la plupart des gens font l'amalgame entre gens efféminés et homosexuels. Il faut casser les stéréotypes, faut casser les codes un peu.
L'homophobie dans le sport, un reportage de Kendrick, Antoine, Stéphane, Alexis, Adam, avec Antoine Lee de France Inter. Merci.
Parfois je pense à ceux qui vont au stade pour en découdre. Ceux qui ont besoin de ça parce qu'ils ont un truc à résoudre. À ceux qui traitent de PD les joueurs sur le terrain. Sans penser que dans la tribune c'est une insulte pour leurs voisins. Quand je pense aux joueurs qui entendent ça, je les plains. Je me dis que c'est un métier où faut parfois y mettre du sien. L'homophobie qui ressort au moindre tac, ça gâche complètement l'amour qu'on a pour le spectacle. Et c'est pour ça qu'au stade on supporte plus cri. Voilà pourquoi je siffle hors jeu à l'homophobie.
On accueille maintenant Nina Droff. Alors vous avez travaillé avec Catherine, Prudence, Dilena, Joyce et Sonia sur les applications sexuelles et la prostitution chez les jeunes. Votre reportage, on écoute et puis on en discute après.
Souriante et décomplexée, Laurie Fortin-Feller a 35 ans et travaille dans les métiers de la pornographie depuis presque 10 ans.
Sur OnlyFans, je fais plutôt des photos. Je ne suis pas très très vidéo parce que je préfère le live en fait. Je me concentre surtout sur des shows en live avec mes clients. C'est du porno amateur sur Internet, tout simplement. Donc une connexion Internet, un ordinateur, une webcam. Et c'est une salle de chat où les visiteurs nous voient, donc en lingerie, tout ça. Et en fait, payent à la minute pour un show privé, donc pornographie.
OnlyFans est une plateforme qui propose à ses utilisateurs de s'abonner à des comptes. Ils payent un tarif tous les mois et en échange reçoivent des photos et vidéos exclusives, ce qui attire de nombreux clients et permet à Laurie d'arrondir ses fins de mois.
Je cherchais un moyen de faire de l'argent entre guillemets passif, dans le sens où quand on part en vacances, on travaille pas, quand on est avec la famille, on travaille pas non plus, donc ça enlève vachement de revenus. Et en fait, j'ai beaucoup entendu parler d'OnlyFans qui marchait très bien, qui payait très rapidement et qui a un bon pourcentage, et du coup, c'est comme ça que je m'y suis mise. En général, je mets entre 5$ et 10$ l'abonnement. Fait dans les, entre 100 et 150 euros le mois.
Une profession qui rapporte, mais aussi une profession très libre selon Laurie, qui aime ce qu'elle fait.
À 22 ans, j'ai commencé striptease et 27, je crois, en webcam. J'étais à l'aise, j'étais pas timide. À partir du moment où t'es à l'aise avec ton corps déjà avant et que tu vis bien ta sexualité aussi, c'est aucun souci quoi. Et je me suis dit, putain, ce métier c'est trop bien, je travaille quand je veux, où je veux, je fais mes tarifs, nickel quoi. Pose pas la question, c'est une grosse, grosse liberté. Et il y a toujours aucun négatif à ce métier pour moi.
Cependant, la jeune femme sait très bien que son image sur internet n'est plus la sienne aujourd'hui.
Quand on se lance dans cette voie-là, dans ce genre de métier, à partir du moment où on sait que notre image est celle d'une femme, une TDS ou une travailleuse du sexe qui son image est diffusée au final partout et on n'a aucun contrôle, même quand on est sur un site de webcam et qu'on voit pas la personne derrière, il peut être avec son téléphone portable comme ça devant l'écran, il me filme, il me met sur Pornhub, enfin je veux dire, c'est juste que c'est plus à nous quoi. Honnêtement, on n'a plus de contrôle sur rien du tout. Hein. Faut pas se voiler la face, quoi. C'est comme ça, et que si on n'assume pas qu'on a de la famille, qu'on a une double vie, un mec, j'en sais rien, enfin, ou un autre travail et tout, c'est irrécupérable.
Les applications sexuelles et la prostitution chez les jeunes, Nina Droff, c'est vous qui avez managé ce groupe sur ce sujet.
Bien, c'est un sujet que les filles avaient toutes envie de traiter, c'est elles qui sont venues avec cette idée de sujet. Est-ce que, Dilena, par exemple, tu veux bien expliquer pourquoi vous aviez envie de choisir ce sujet ?
Sur les réseaux sociaux, nous les jeunes, on est surtout dessus. Et ça parlait beaucoup de ça, les influenceuses qu'on suivait, etc. Elles faisaient leur pub, en fait, pour leur compte, que ce soit OnlyFans, Mime, etc. Et du coup, on voulait s'y intéresser, voir comment ça marchait, combien elles gagnaient, si leur famille ou leur entourage était au courant, qu'est-ce qu'ils pensaient de ça. Et elles, ce qu'elles pensaient de leur corps, etc., de ce qu'elles faisaient, en fait.
C'est des filles qui ont quel âge, en moyenne, qui font ça ?
Entre 18 ans, 20 ans, 25, mais assez jeunes.
Il y a des mineurs, 16 ans, même 15 ans. À partir de 15 ans, on peut trouver des filles qui font ça.
Est-ce que vous, ce que vous me disiez, c'est que sur les applications du style TikTok, Snapchat, vous en voyez beaucoup ?
Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors moi, je trouve que c'est grave. Pour moi, c'est de la prostitution, vu qu'on vend notre corps, on vend des photos de notre corps. Et c'est grave, puisque je vais donner des exemples d'influenceuses qui font ça, comme Polska, qui est une influenceuse qui est suivie par beaucoup de jeunes, donc même des personnes qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans. Elle a même une sœur qui a 11 ans et qui la voit faire ça. Et elle fait la pub, elle dit qu'elle gagne énormément. Alors elle monte ses sacs, elle monte ses chaussures, etc. Et nous, quand on voit ça, les personnes un peu naïfs, etc., ils peuvent se dire « Ah, c'est ça la vie, pas besoin de travailler à l'école. Si on vend des photos de nous, de notre corps dénudé, on peut vite atteindre ce qu'elle gagne, etc. » Du coup, c'est grave.
Pourquoi c'était important pour vous d'aborder ce thème ?
C'était important en fait d'en parler aussi pour sensibiliser les gens à ce sujet-là. Et puis comme les sites comme ça en fait c'est accessible, en fait ce serait aussi bien qu'on en parle pour qu'ils puissent mieux les encadrer, que ce soit plus sécurisé pour les mineurs.
Est-ce que tu penses qu'on peut facilement tomber dans ce genre de choses ?
Oui.
Des fois, il y a des filles qui viennent et qui te proposent « Est-ce que tu veux travailler pour nous ?» ils te disent un bon tarif, c'est sécurisé, tout ça, mais tout le monde peut screen les photos que tu envoies et tout, donc c'est pas le top.
C'est dénigrant, parce qu'on se dit qu'on dirait qu'on a un objet, on se vend. Donc c'est comme les filles qui vendent leurs pieds. Enfin, il y a beaucoup de filles qui font ça. Ah oui.
Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?
Par rapport aux fétichistes, etc. Il y en a beaucoup qui vendent leurs pieds, qui pensent qu'elles vendent des bracelets, quoi. C'est rien. Alors que si, c'est comme de la prostitution, vu que tu vends tes pieds, des photos de tes pieds, tu vends ton corps. Enfin, tes pieds, ils font partie de ton corps. Donc pour moi, enfin, c'est mon opinion. Après, chacun a le sien. Mais pour moi, c'est quand même de la prostitution de vendre ses pieds. Enfin, c'est n'importe quoi. Il y en a beaucoup, des jeunes de notre âge, et surtout, je pense, les étudiantes qui n'arrivent pas à trouver de l'argent pour payer leurs écoles, etc. J'avais vu un reportage dessus, sur les prostituées, etc. Et la plupart, c'était vraiment des étudiantes qui sont tombées dans ça, puisqu'elles ne pouvaient pas payer leurs études, et que la seule manière de pouvoir les payer, et de faire ce qu'elles veulent faire, en fait, c'était ça. Du coup... C'est horrible, quoi. Enfin, de dire que tu dois en arriver là pour... Enfin, il y a d'autres choses. On peut faire d'autres choses.
Vous savez si elles arrivent justement à en sortir ?
Non. Elles sont restées dedans. Enfin, vu qu'elles gagnaient bien leur vie. Elles disaient qu'elles gagnaient énormément bien leur vie, etc. Donc, et qu'elles menaient une double vie, en fait. Le soir, c'était ça. Et la journée, c'était elles étaient étudiantes, comme des mamans, etc.
Mais c'est surtout que ça prend pas de temps.
Sonia ?
Ouais, c'est rapide à faire. Mais tu te dis que tu le fais une fois pour arrondir ta fin de mois. Mais après, c'est un cercle vicieux. Hein. Ouais. Tu t'en sors pas.
Vous en parlez de ça avec vos parents ?
Non. Enfin, si, un peu. Léna ? Si, mais c'est compliqué. En fait, ça, c'est compliqué d'en parler. C'est surtout caché. La prostitution, OnlyFans, etc. Et c'est pour ça que, même nous, au début, on était un peu gênés d'en parler, de faire ce thème, quoi. Parce que c'était un peu bizarre, vu que personne vraiment parle de ça.
Ouais, mais alors c'est important.
Oui, c'est super important, parce que quand on voit des jeunes qui regardent, qui ont Snapchat, Instagram, etc., qui peuvent tomber sur ça, qui ne sont pas informés, enfin, ils savent pas ce que c'est, ils se disent, bon, vendre mes pieds, vendre quoi, vendre une partie de mon corps, c'est pas grand-chose. Alors que si, enfin, c'est... Il y en a plein qui font ça, c'est comme les personnes qui font des nudes, etc., qui se retrouvent après à sauter par la fenêtre parce que ça tourne.
Des nudes, c'est quoi ?
quand tu fais une photo de toi dénudée.
Des photos de nus.
Il y a beaucoup de ça, enfin, il y a beaucoup de filles qui tombent dans ça, les pauvres, et qui se font. Après, qui finissent par se suicider, etc. Il y a plein d'histoires très hard comme ça.
Vous me racontiez que vous aviez vu passer des photos et que ça appartenait à des gens et que ça tournait. Et que ça, c'est des choses auxquelles vous êtes exposés aussi au quotidien.
Les garçons, ils aiment bien. C'est-à-dire, on pense qu'ils sont gentils, ils demandent une photo. On est ensemble, c'est pas très grave, on envoie une photo. Et finalement, dès que c'est fini, ou dès qu'on va le quitter ou quoi, ils vont directement les envoyer à tout le monde. Et je trouve ça horrible. Il y en a plein qui finissent par se suicider, etc. Et c'est très grave. Et on devrait en parler parce que les garçons, j'ai l'impression que... Parce qu'il y en a plein qui font ça. Moi, j'ai plein de copines qui ont subi ça, qui ont subi du harcèlement parce que des garçons voulaient qu'elles fassent des choses pour lui. Et si elles faisaient pas ça, ils sortaient les photos, quoi. Et donc, du coup, elles étaient obligées de faire ce qu'ils disaient. Et je trouve ça horrible à notre âge. Hein. Enfin, des petits de notre âge, de 16 ans, parce que je trouve qu'on est encore petits, à 16 ans, déjà penser à ça, à harceler une fille par rapport à des photos d'elle dénudée, je trouve ça assez grave. Enfin, les parents, ils devraient plus en parler, en fait, de ça, dans notre éducation, etc. Dire que notre corps, il nous appartient. Et que même si on a une photo d'un tel ou d'un tel, on n'est pas censé les sortir. Enfin, c'est pas à nous.
Peut-être faire attention de ne pas les donner, ces photos.
Oui,
pas les
aussi,
faire.
Bien
oui,
sûr.
Pas les faire.
Aussi, bien sûr. Parce que les garçons, ils sont forts en manipulation, etc. Enfin,
parce qu'elle, elle est toute contente au début. Elle envoie sa photo, ils s'entendent bien et tout. Mais c'est après. Elle ne se dit pas que on ne va plus être ensemble, il va faire ça. C'est...
Ouais. On vous a déjà proposé, vous les filles, de faire des photos comme ça ?
Sur les réseaux sociaux, si. Et y a beaucoup de...
Mais qui, toi, ça t'est arrivé directement ?
Oui, mais aussi sur Instagram, il y a des groupes. Qu'ils font des groupes d'harcèlement, ça nous harcèle. Enfin, vraiment, ils font plein de groupes et ils envoient un lien. Donc, c'est un lien de prostituée, etc. Et après, c'est pour aussi te dire viens avec nous, fais avec nous, etc.
Vous faites attention à qui vous suit justement sur les réseaux sociaux. Sonia,
oui. Tout à l'heure, vous aviez dit pourquoi on n'en parle pas avec nos parents. Parce que nos parents ils se disent qu'on est jeunes, justement. Du coup, personne n'a à recevoir des trucs comme ça. Ils se disent pas que ils vont faire des groupes, ils vont envoyer des liens. Personne se dit oui qu'on va recevoir ça.
Vous les sentez un peu dépassés, vos parents, par ce qui se passe sur les réseaux sociaux ?
En ce moment, surtout, oui, avec les histoires qui se sont passées, les filles qui se font tuer, tout ça, commence à réaliser un peu.
Comment ils arrivent sur vos comptes ? Comment ils trouvent vos identifiants ?
Ils sont juste sur les réseaux. Et ils envoient, à mon avis, ils n'envoient pas qu'à nous. Ils envoient à des milliers de personnes. C'est tout. Et du coup, on est dans le lot, quoi. Enfin, qu'on soit en compte privé, public, maintenant, ça vaut rien. Maintenant, qu'on soit en privé, en public ou quoi, On peut toujours tomber sur des fous, hein. Des gens qui font des faux comptes. Il y en a plein qui font des comptes de filles de notre âge. Et ils les font très très bien. Des filles de notre âge, on se dit, bon, on va l'accepter, elle a l'air d'être gentille. Qui nous parle, salut, ça va, comment vas-tu, etc. Donc nous, on va lui parler. Et finalement, non, tout ça, c'est un piège. Tout ça pour avoir un rendez-vous. Et après, voilà, quoi. Il y en a beaucoup qui tombent dans ça.
Merci à Catherine, Prudence, Dilena, Joyce et Sonia. Sur France Inter, c'est Ghetto Gospel, Tupac. I welcome with my hands, and the red sun sinks at last into the hills of gold. At peace did this young warrior without the sound of guns. If I could recollect before my hood days, I sit and reminisce, thinking of bliss and a good day. I stop and stare at the younger, my heart goes to him. They tested with stress that they under, and nowadays things change. Everyone's ashamed of the youth, cause the truth look strange. And for me, it's reversed. We left them a world that's cursed, and it hurts. Cause any day they'll push the button, and all good men like Malcolm X and Bobby Hunt die for nothing. Don't it make you get teary? The world looks dreary. When you have your eyes, see it clearly. There's no need for you to fear me. If you take your time to hear me, maybe you can learn to cheer me. It ain't about black or white, cause we're human. I always see the light before it's ruined. My ghetto gospel, those who wish to follow me. Ghetto gospel, I welcome with my hands. And the red sun sinks at last into the hills of gold. And peace to this young warrior without the sound of guns. Tell me, do you see that old lady? Ain't it sad? Living out of bags, plus his lap for the little things she has. And over there, there's a lady, kind of crazy. Yes, it's giving birth to a baby. I don't trip and let it fade. From out of the frying pan, we jump into another form of slavery. Even now I get discouraged. Wonder if they take it all back. Will I still keep the courage? I refuse to be a role model. I say ghost take control, drink out my own bottles. I make mistakes, learn from everyone. And when it's said and done, I bet this brother be a better one. If I upset you, don't stress. Never forget that God isn't finished with me yet. I feel his hand on my brain. When I write rhymes, I go blind and let the Lord do his thing. But I'm a less holy, cause I choose to pump up and drink a beer with my homies. Before we find world peace, we gotta find peace and in the war on the streets. My ghetto gospel, those who wish to follow me. Yeah, ghetto gospel, I welcome with my hands. C'était Ghetto Gospel de Tupac, mort assassiné dans une fusillade à Las Vegas il y a 25 ans et toujours considéré aujourd'hui comme un rappeur majeur. Au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, on accueille Rachel Sadodine.
Alors vous Rachel, vous avez travaillé avec Safwan, Mélina, Leïla, Divine, Selma et Ibrahim.
Oui, ils ont absolument tenu à discuter aujourd'hui sur les violences entre adolescents qui ont lieu dans les banlieues parisiennes depuis janvier. Ça les a particulièrement marqués. Divine, peut-être tu veux commencer. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ces bagarres entre jeunes, des jeunes au collège parfois, de 14 ans?
J'ai eu un peu de peine parce que pourquoi tant de haine entre jeunes garçons et jeunes filles alors qu'on vient juste pour étudier et pour s'amuser entre guillemets et on se retrouve à se bagarrer, à s'entretuer.
Tu penses à une actualité en particulier, un fait qui t'avait marqué?
Oui, celle de la jeune fille qui a été jetée dans la Seine.
Alisha, 14 ans. Selon le procureur, suivit son ami jusqu'au quai de Seine. Le piège tendu par ses deux camarades de classe se referme. L'adolescente est consciente, les yeux encore ouverts selon le procureur, lorsque ses deux agresseurs la jettent dans la Seine, 4 ou 5 mètres en contrebas.
Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ils suivent la mode de, par exemple, faire la guerre entre cités ou quoi. Donc ils se disent que je vais faire ça pour prouver aux gens que je sais me battre ou quoi. Et dans l'effet de l'action, bah, ils ne vont pas voir qu'ils sont en train de soit s'entretuer ou quoi. Et après, bah, je pense qu'ils ont des remords quand ils arrivent chez eux parce qu'ils ont tué l'enfant de quelqu'un, une personne. Il a des frères, des sœurs, il a une mère, il a des parents.
Ça vous fait un peu peur, ça ou pas ?
Oui, ça nous fait peur, mais je sais personnellement que dans ma ville, bah, ça n'arrivera pas. Et c'est très courant en ce moment. Les garçons, ils se sentent gang, on va dire, quand ils décident de taper des gens.
Et en tant que fille, on se sent comment alors ?
C'est sûr que bah, on va pas se retrouver dans des guerres de gangs, de cités ou quoi.
Pourquoi t'as l'air autant sûre de toi ? Pourquoi tu dis que chez toi, ça peut pas arriver ce genre de violence ?
Mais parce que bah, j'habite à Clichy depuis très longtemps. Je connais bah, des jeunes, ils ont le même âge que nous. Ils vont pas aller prendre des bâtons, je sais pas quoi, et aller taper des gens.
C'est quoi la différence du coup entre vous et ces jeunes qui vont jusqu'à tabasser quelqu'un en fait ?
Il n'y a pas de différence, c'est juste que ici, les jeunes d'ici, ils n'ont pas que ça à faire que d'aller dans d'autres villes taper des gens pour se sentir gang. Ils vont juste, ils réfléchissent, je sais pas, ils se disent je vais pas le taper alors que peut-être ça peut être mon ami ou quoi.
Bon alors le rap reste quand même la musique de votre génération et pourtant dans les choix musicaux qu'on vous a demandé hein, pour préparer cette émission, Victoria, tu nous as choisi David Bowie.
Parce que c'est un chanteur que j'apprécie énormément. Je trouve que ce qu'il fait est très bien, que ce soit au niveau des paroles ou alors au niveau simplement de la composition musicale. Ce qu'on ne trouve pas dans le rap, car dans le rap, il y a des très belles paroles. Très souvent, ce sont des véritables poèmes. Mais j'ai toujours du mal avec le fond sonore. C'est très compliqué pour moi, même si je trouve qu'il y a certaines paroles de rap qui sont magnifiques. Et j'ai choisi David Bowie, Five Years, parce que cette chanson m'a un peu rappelé notre situation actuelle. Dans cette chanson, on imagine qu'il reste 5 ans sur Terre à vivre avant que toute l'humanité soit finie ou alors la Terre entière. Du coup, c'est une chanson assez triste parce que tout le monde pète un plomb dans cette chanson, sauf le personnage qu'incarne David Bowie, qui parle aussi du fait qu'il veut juste être à côté de son amoureuse ou de son amoureux, enfin de la personne qu'il aime. Et ça m'a rappelé le confinement, etc. Et puis, je trouve qu'en cette situation, on a peut-être plus que 5 ans à vivre, mais on va peut-être pas vivre éternellement sur cette planète, en tout cas nous, l'humanité. Je trouvais que cette chanson collait bien avec notre époque actuelle, malgré le fait qu'elle a été écrite en 1972. Pushing through the market square. So many mothers sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. This guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse. It had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people. And all the tall, short people. And all the nobody people. And all the somebody people. I never thought I'd need so many people. My age went off ahead. Hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed his stare to the wheels of a Cadillac. A cop knelt and kissed the feet of a priest.
up the side of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor, and I thought of more, and I wanted to get back there. Your face, your race, the way that you talk, I kiss you, you're beautiful, I want you to walk. We got 5 years stuck on by, 5 years, what a surprise. We got 5 years, my brain hurts a lot, 5 years, that's all we got. We got 5 years, what a surprise, 5 years stuck on by. We got 5 years, my brain hurts a lot, 5 years, that's all we got. We got 5 years stuck on by, 5 years, what a surprise. We've got 5 years, my brain hurts a lot, 5 years, that's all we got. We got 5 years, what a surprise. We got 5 years stuck on by, we got 5 years, my brain hurts a lot, 5 years, that's all we got.
Five Years de David Bowie, un choix de Victoria, future journaliste. Et maintenant, le cinquième et dernier sujet de notre interclasse avec votre groupe, mon cher Nicolas.
Absolument, avec, et elles sont toutes là autour de la table, avec Amel, Aya, Mathis, Julie, Camélia, Chala et Doria. Je précise également que leurs professeurs, qui ont été présentes toute l'année, c'est Sandra Dezet et Véronique Mélin. Alors, le sujet que nous avons choisi, c'est...
Les effets positifs de la crise du Covid...
Parce qu'on parle beaucoup, effectivement, des effets négatifs du Covid partout. Ça fait des mois et des mois qu'on entend
c'est
ça à la radio.
C'est vrai qu'on est concentré sur que du négatif. Mais nous, les jeunes, on a besoin de un peu penser d'autres choses, à quelque chose de positif en ce moment. Parce que ça a été dur pour nous comme pour les plus âgés. Et donc, on a préféré de parler des choses positives qui ont pu arriver pendant ce moment. On a eu l'idée d'aller voir l'infirmière de notre lycée qui nous a donné l'idée d'aller voir l'UATA, une unité d'accueil thérapeutique pour adolescents. C'est un centre qui reçoit des jeunes âgés de 12 à à peu près 18 ans. C'est un lieu d'écoute et aussi de soins pour les adolescents, mais également pour leurs familles. L'UATA est une structure qui fait partie d'un service de pédopsychiatrie couvrant le nord des Hauts-de-Seine. L'équipe qu'on a rencontrée est composée d'une douzaine de personnes, 3 pédopsychiatres, une étudiante en médecine, 3 psychologues, une secrétaire, 2 infirmières.
Et alors, c'est toute une équipe, on le précise, hein, qui nous a reçus.
Oui, bien sûr.
Mais celui qu'on entend...
C'est Christophe Ferreira, c'est un éducateur spécialisé de formation. Il est cadre socio-éducatif et soignant de l'UATA.
Et c'est Camélia qui lui a posé la première question.
Est-ce que vous auriez un exemple d'une personne que vous avez prise en charge pour qui le confinement a été positif ?
C'est une jeune fille que l'on suit toujours actuellement, qu'on va appeler Marie, je change son prénom, qui avait 15 ans à ce moment-là et qui vivait, enfin qui était totalement reclue à son domicile depuis un an. Elle n'allait plus à l'école, elle n'arrivait pas à venir nous voir ici. Nous, on allait chez elle, on la voyait à son domicile. Et donc Marie, pendant le premier confinement, elle nous a dit « Est-ce que je pourrais avoir un certificat médical pour sortir dans la rue ?» Alors nous, on était... plus qu'étonnée, comment ça, Marie, tu ne sors jamais, et là, tu veux sortir ? Elle dit, oui, je me sens en mesure de sortir, parce qu'il n'y a personne dans les rues, donc je ne me sens pas angoissée pour sortir. Et donc, on lui a fait un certificat médical, et les premières sorties qu'elle a pu faire, c'est en voiture, avec ses parents, dans Paris. Au fil des semaines, elle est sortie sa voiture, et elle a marché dans Paris, avec ses parents. Et pour elle, c'était vraiment, là, pour le coup, c'était un moment exceptionnel. Alors tout le monde subissait le confinement, mais elle nous disait, j'ai la chance de pouvoir sortir. Et c'était vraiment un moment très très fort pour elle, pour nous aussi, parce qu'on disait, enfin Marie arrive à sortir, elle arrive à partager des choses avec ses parents, et elle arrive à nous en parler. Donc ça, c'était assez, assez fort, et je pense que ça a eu un effet quand même chez elle, parce que lorsque le confinement s'est arrêté, elle nous a dit, mince, je vais devoir retourner à la maison, moi, parce que de nouveau les rues vont être remplies, et de nouveau je vais être angoissée. Et là, on a évoqué avec elle la possibilité qu'il y ait d'autres temps extérieurs qui soient très aménagés. Donc on a fait des accompagnements en voiture, on a fait des choses à partir de son expérience finalement pendant le confinement. Et petit à petit, alors je ne dis pas que la période de confinement a tout arrangé, loin de là. Donc en tout cas pour cette jeune fille et peut-être pour d'autres sur l'UATA, il y a eu un effet confinement, mais pour le coup positif. Parce que elle, je pense qu'elle s'en rappellera dans quelques années en disant « Bah moi, j'étais dans Paris. Moi, je suis allée sur les champs alors qu'il n'y avait personne. J'ai pris des photos que j'ai postées aux amis, etc. » Parce qu'elle avait quand même maintenu des liens vers les réseaux sociaux. Elle a accepté d'aller dans les lieux de soins la journée pour y faire des activités. Donc pour cette jeune fille, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a marqué en tant que soignant. Il y a eu un effet positif du Covid.
Des surprises également côté des parents.
S'il faut aussi sortir un point positif, j'ai l'impression que dans certaines familles, les places de chacun, elles ont été un petit peu rediscutées en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a même des parents qui ont découvert leurs adolescents dans cette période en disant « Je la voyais pas comme ci, je la voyais pas comme ça. Je me suis rendu compte qu'elle s'intéressait à tel ou tel sujet. Je me suis rendu compte qu'il avait des connaissances sur ce point-là. » Et finalement, voilà, il y a eu ce qu'on, dans notre jargon, on parle de dynamique. C'est pas très joli, mais c'est quelque chose, voilà, qui bouge. Un mouvement dans certaines familles. Et finalement, ça a bougé. Et ces familles sont sorties du confinement avec un regard sur l'autre différent.
Et au final, que pouvons-nous retenir de positif de tout ça?
Pour notre jeunesse, pour nos lycéens, nos collégiens, ils auront quelque chose d'un vécu commun avec leurs parents, avec leur famille, avec leurs amis, même si c'était à distance, à travers les réseaux sociaux, etc. Donc, ils vont sans doute en garder un vécu, finalement. Il y a quelque chose on a vécu quelque chose d'exceptionnel. On n'a pas très envie de le revivre, certes. J'ai l'impression que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand vous serez vous-même parents, vous raconterez cet épisode à vos enfants à votre manière, sans doute avec votre propre récit, votre propre ressenti, mais vous pourrez dire à vos enfants, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 16 ans, on a vécu ça, et je vais te raconter.
Bon, cette année, c'était la deuxième année scolaire concernée par cette crise du Covid. Pour vous, ça a été plus difficile que l'année dernière?
On a eu des tonnes de devoirs et des tonnes d'évaluations sur le coup, et ça avait plutôt perturbé, honnêtement. Et tout ce que je voulais faire, c'était balancer mes devoirs à la poubelle et redormir. C'était tout. Et pleurer aussi, parce que j'avais beaucoup de mauvaises notes aussi.
Moi, c'était plus, on va dire, vers la période de décembre, lors du couvre-feu de 18h. C'est-à-dire que je faisais école-maison, sans cesse. Donc, à un moment, j'ai craqué, quoi. C'était presque vers la période du conseil de classe, en plus. Donc, comme a dit Sarah, on enchaînait les contrôles, les évaluations, etc. Donc, à un moment, j'ai lâché prise et j'ai décidé... J'ai presque décidé d'arrêter l'école.
Ah oui, carrément.
Carrément.
Et toi, Chela?
Par exemple, la période du troisième trimestre, elle est quand même importante. Elle est toujours importante toutes les années, bien sûr. Mais par exemple, au lycée, pour notre futur, il faut choisir les filières, etc. Il faut avoir des bonnes notes pour être favorable à ce qu'on veut faire. Et là, ils nous balançaient vraiment le troisième trimestre. On a une semaine, 5 contrôles tous les jours. Moi, j'ai une journée mercredi, j'avais que des contrôles. Il y avait vraiment la pression, quoi.
Personnellement, le Covid, ça a clairement, entre guillemets, ruiné mon année. Parce que je connais pas la moitié de mes camarades de classe. Par exemple, en arrivant, on m'avait parlé de Camélia. J'ai dit, c'est qui Camélia, alors qu'elle était dans ma classe.
Personnellement, quand je regarde des photos de moi avant le confinement et au mois d'octobre, il y a rien à voir.
Sur des photos?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a de différent d'une photo à l'autre?
On voit que je suis une nouvelle personne, que j'ai réussi à me reconstruire... de moi-même, sans l'aide de personne.
Vous avez l'impression que ça vous a fait mûrir?
Oui. Avant, je me trouvais assez immature. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'autonomie et sa propre prise en charge étaient des vertus qu'on devait forcément acquérir pour pouvoir suivre les cours et survivre tout court à la crise sanitaire. Il fallait obligatoirement... se prendre en main, on n'avait personne à côté. Enfin si, les profs, mais comment dire, à distanciel, il y avait personne pour me prendre par la main, il n'y avait pas de sonnerie, personne ne nous disait « va en cours, t'y es obligé ». Donc il fallait forcément se lever, se motiver, et c'est ça qui est important dans mon développement personnel.
Il y en a certains d'entre vous qui ont le sentiment d'avoir pris de mauvaises habitudes?
Oui, je suis quelqu'un d'assez de travailleur,
Mais avec le confinement, j'ai l'impression de faire beaucoup de procrastination. Du coup, c'est un peu compliqué. Parfois, je pourrais se rattraper, etc. Et j'ai parfois souvent perdu la gestion du temps, ce qui m'arrive de plus en plus pendant les contrôles, etc. Donc, c'est compliqué. Il faut que je rattrape ou que je m'améliore dans ça.
Et vous avez le sentiment d'avoir vécu une forme d'événement historique ou pas ?
Bah, bien évidemment. On a l'impression on est, entre guillemets, les premiers. Déjà, actuellement, après la réforme du lycée, on est les premiers à vivre un cursus entièrement généralisé. Et donc, déjà, en soi, c'est censé marquer les esprits. Mais en plus, on a dû faire ses scolarités avec le Covid. Par exemple, j'ai des photos de moi avec un masque. En temps normal, j'aurais jamais porté de masque, si ce n'est pour faire un cosplay, par exemple. Donc, c'est très perturbant.
C'est vrai qu'on a vécu un événement historique, il faut le dire. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on l'imagine souvent dans les livres d'histoire. On voit des jeunes qui se battent contre les choses, etc. Les événements, qui essaient de faire quelque chose. Nous, on n'a rien fait et c'est ce qu'on nous demandait de faire d'ailleurs. On nous demandait de rester chez nous tranquillement et de respecter les gestes barrières. C'est ça qui est assez triste dans cette histoire, c'est qu'on ne peut pas vraiment agir contre ce virus. On a l'impression de rien faire. On se sent très inutile quand même dans cette histoire. Alors, je pense qu'il faut quand même saluer tous les soignants qui, eux, ne sont pas inutiles et qui nous ont beaucoup aidés dans cette crise. Et ça fait très bizarre parce qu'au début, on les applaudissait, etc. Et plus personne ne le fait et c'est un peu triste.
Et les artistes, eux, comment l'ont-ils vécu cette période ?
Et c'est la question que nous avons posée à Camille Lelouch.
Tout ça à cause d'une putain de chauve-souris. Salope, tout ça à cause. Je croyais qu'il y avait une chauve-souris chez moi. Ouh, coco, corona, va bien avec ta mère.
Camille Lelouch est une actrice, humoriste et chanteuse qui a eu pas mal de succès lors du confinement avec sa chanson Cocorona, qui a eu plus de 4 millions de vues sur Instagram.
Comment avez-vous eu l'idée de la chanson Cocorona ?
J'étais très en colère quand on était confinés de voir que des gens ne respectaient pas le confinement et sortaient quand même. Sachant que moi je suis restée 60 jours toute seule enfermée, je me faisais livrer mes courses, etc. Et c'était très frustrant, j'avais peur, il y avait quand même pas mal de décès et je trouvais qu'on prenait pas assez ça au sérieux. Du coup, j'étais tellement en colère que je savais pas si je devais parler sur les réseaux. Je me connais, je suis assez impulsive, donc si je parle, on aurait pu prendre ça comme si je donnais une leçon à quelqu'un ou je faisais la morale aux gens, quoi. Et je voulais pas ça. Du coup, je me suis mise devant mon piano. Et j'ai improvisé une chanson sur ce Covid, Corona, comme je l'ai appelé, qui m'énervait. Et du coup, comme j'étais très énervée, j'ai pu me permettre de dire des mots que j'aurais pas pu dire en parlant. En tout cas, ça a été l'hymne national du confinement. Et il y a énormément de gens qui l'ont entendu et qui l'ont malgré tout aimé.
Qu'est-ce que la crise du Covid vous a apporté ?
La crise du Covid, ça m'a apporté beaucoup de créativité. Le fait d'être seule et de ne pas pouvoir remonter sur scène, ce qui était triste et troublant pour moi, frustrant parce que c'est viscéral et que c'est le seul endroit où je suis vraiment, vraiment heureuse. Du coup, déjà quand on pouvait pas sortir de chez nous, j'ai fait beaucoup de choses. Je fais de la peinture, ça paraît un peu bateau, mais c'est assez vital pour moi.
Camille Lelouch au micro des élèves de seconde B du lycée Auffray de Clichy, des élèves qui ont été encadrés toute l'année par Véronique Mélin et Charlotte Amidani. Ça n'a pas été facile tout le temps.
Oui, alors c'est, mesdames, hein, si on essaie de faire le bilan un petit peu de cette année, qu'est-ce que vous retenez de cette année, Charlotte ?
Je pense que ce que je retiendrai de cette année, c'est déjà que ça a pu se faire. Je trouve ça assez incroyable qu'on soit ici après cette année si particulière. Je retiendrai aussi l'engagement des élèves en fait qui étaient en fait très heureux d'avoir ça pendant l'année et que ça a tenu je pense pour beaucoup. Il me semble que en même temps cette année ce que j'ai ressenti chez les élèves c'était aussi un vrai plaisir à être à l'école. Alors, je sais pas si c'est ce qu'ils ont dit au micro auparavant, mais on sentait un soulagement parce qu'il restait aussi presque que ça. Et donc ils étaient contents, enfin on a vu des élèves contents d'apprendre, contents de venir au lycée, de se retrouver et paradoxalement on a eu des climats de classe très sereins en fait, à l'intérieur de cette situation qui ne l'était pas du tout, mais avec une grande confiance des élèves envers les professeurs, mais aussi entre eux, me semble-t-il.
C'était Interclasse avec le lycée René Auffray de Clichy, une émission animée par Alexandra Akoum et Nicolas Mathias, réalisée par Lilian Alloum, production et rédaction en chef Éric Valmire, prise de son Victor Ouvrard.